Cieco d'ailleurs est en vacances. Pendant ce temps, nous vous proposons une série de rediffusions. Nous avons choisi de vous faire entendre certaines des émissions les plus marquantes de la saison qui s'est terminée au mois de juin. Restez à l'écoute.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Tous les jours, sur tous les continents, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants tentent de passer les frontières, de franchir les mers et les océans, d'escalader des murailles de barbelés. Au risque de leur vie, ils fuient la tyrannie et la misère pour trouver sécurité et travail. Dans cette émission, nous nous intéresserons donc aux causes et aux conséquences économiques de ces flux de migrants, aux coûts et aux bénéfices. Nous irons au point de départ, voir si c'est le sou ou le mal développement qui provoque cette immigration. Nous irons au point d'arrivée, voir si l'immigration économique, au-delà des arguties politiques, est un fléau ou au contraire un besoin. Tout cela avec les trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Sandrine Mesplé-Somps.
Bonjour.
Sandrine Mesplé-Somps, vous êtes chargée de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Vous enseignez à l'Université Paris-Dauphine et à l'École d'économie de Paris. Vous travaillez évidemment sur les questions migratoires, c'est pourquoi je vous ai invité. Et vous coordonnez en ce moment une enquête baptisée Polécomis, qui veut dire économie politique de la migration internationale. De quoi s'agit-il exactement?
Alors, il s'agit plus largement d'une enquête, il s'agit d'un programme de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche française, qui porte donc sur l'économie politique des migrations, plus spécifiquement au Mali et au Sénégal. Et en fait, on s'est intéressé, la question qu'on se pose, c'est au-delà des transferts d'argent que font les migrants, on souhaite étudier l'implication politique des migrants et l'implication des migrants dans la gestion des collectivités locales. Donc on est en train de mener plusieurs études, dont une par exemple on a menée sur en quoi les migrants se réunissent en association de migrants en collectif, notamment au Mali, au Sénégal, mais dans d'autres pays. Et on a fait une évaluation, on a estimé combien est financé d'écoles, de centres de santé, etc. Chose qui avait jamais été faite en large échelle au Mali. Et d'autre part, on a mené beaucoup d'enquêtes au moment des élections au Sénégal, présidentielles sénégalaises et maliennes en 2013, auprès des migrants qui votent dans leur pays de destination. Donc on leur pose des questions sur leur implication politique, le sentiment qu'ils ont par rapport à la politique de leur pays d'origine, mais d'ici. Et en miroir, on est allé interroger aussi des gens au moment du vote au Mali et au Sénégal aussi, et on pose des questions sur les transferts de normes, notamment politiques.
Avec nous également dans ce studio, Claude Resnick, bonjour.
Bonjour.
Claude Resnick, vous êtes adjoint au maire de Montreuil, dans la proche banlieue parisienne, dans le 9-3, comme on dit, en Seine-Saint-Denis. Vous êtes en charge de la coopération des solidarités internationales et des populations migrantes. Vous êtes un élu vert, Europe Écologie Les Verts. Pourquoi cette fonction au sein d'une mairie, Claude Resnick?
Il y a deux volets qui sont pour nous complémentaires. Les populations migrantes, les problèmes qui se posent assez, en général aux nouveaux arrivants, mais pas seulement aux nouveaux arrivants, aussi à ceux qui sont là depuis un certain temps, qui peuvent vivre en foyer.
Mais
qui
il y a beaucoup de migrants à Montreuil.
Alors oui, Montreuil, c'est une ville d'immigration. Il y a plus de 70 ou 80 nationalités différentes, avec des gros blocs originaires du pourtour de la Méditerranée, on va dire, si on inclut l'Espagne et le Portugal, et d'Afrique de l'Ouest.
De quel pays?
Principalement malien, accessoirement mauritanien, sénégalais, évidemment il y a des congolais, des ivoiriens, etc. Mais disons que l'immigration principale est malienne.
Alors avec nous un troisième invité, quelqu'un que les auditeurs de RFI entendent régulièrement, Altine Lazage, bonjour.
Bonjour.
Altine, vous êtes journaliste au service économique de RFI. Ce que nos auditeurs ne savent pas, c'est que vous êtes d'origine albanaise. Vous avez donc immigré en France il y a quelques années pour des raisons économiques. Comment ça s'est passé?
Pour des raisons économiques, oui, je suis venu en France en 1996. J'ai fait des études en France et après, je me suis installé en France pour travailler.
Pour ne pas retourner en Albanie?
Pour ne pas retourner en Albanie, pour des raisons économiques.
Parce que là-bas, on ne peut pas vivre de son travail ou on ne pouvait pas?
Il y a beaucoup de chômage. l'économie est asphyxiée, beaucoup de corruption, et donc j'ai choisi de rester en France.
Alors au cours de cette émission, nous rejoindrons également nos correspondants Eric Sanson à Quito en Équateur, Alexandra Branjon à Johannesburg en Afrique du Sud, Fabien Hoffner à Dakar au Sénégal et Leila Berato à Alger en Algérie. Claude Resnick, vous disiez tout à l'heure que Montreuil était une grande ville malienne, en quelque sorte. Non, ça n'est pas une grande ville malienne. Il y a beaucoup d'immigration malienne.
Il y a une immigration malienne importante. On a toujours envie de se montrer un petit peu mieux que ce qu'on est. On dit qu'on parle toujours de Montreuil comme la seconde ville malienne. Mais je peux vous dire qu'au Mali, il y a des villes maliennes bien plus importantes que Montreuil, après Bamako.
Mais pourquoi est-ce qu'il y a une forte communauté malienne à Montreuil ?
Alors ça, c'est une histoire qui remonte au début de l'immigration de ouest-africaine. Montreuil était une ville populaire où on a installé au départ énormément de foyers pour les migrants qui étaient honteux à l'époque. Enfin, pour certains, c'est encore le cas. Mais il se trouve que cette grosse présence malienne a fait que depuis 1985, Montreuil a développé d'abord un jumelage avec un cercle au Mali, l'équivalent d'un département, le cercle de Yélimané, puis une coopération décentralisée, dès que la loi a pu le permettre, qui est ancrée, profonde, ancienne, avec des projets formidables.
Alors Sandrine Mespresson, vous êtes en quelque sorte à l'autre bout de la chaîne, puisque vous étudiez l'émigration malienne au Mali. Est-ce que la communauté malienne de Montreuil joue un rôle dans cette économie du Mali ?
Oui, ils participent, soutiennent, j'en dirais, l'économie des pays d'origine.
Tout à l'heure, vous parliez des cliniques, des écoles, des hôpitaux qu'ils finançaient.
Voilà, donc ils ont un lien très fort, même s'ils sont parfois très bien insérés ici, ils maintiennent beaucoup de liens, à la fois économiques et sociaux. Alors, si on parle des transferts des migrants, ils transfèrent à la fois à leur famille, mais aussi à leur entourage, de manière assez importante. Donc effectivement, ils contribuent à améliorer les conditions de vie des Maliens, qui restent toujours difficiles. Mais c'est pas pour autant que c'est une condition suffisante. Enfin, la migration soutient beaucoup l'économie malienne, mais c'est pas pour autant que les gens puissent sortir d'une trappe à pauvreté, quoi. C'est souvent les fonds des migrants permettent aux ménages de survivre, on va dire, et pas de vivre de manière extraordinairement mieux. Après, effectivement, les migrants, pour des raisons diverses et variées, n'aident pas uniquement leur famille, ils aident aussi leur village à travers les constructions d'investissements. Au départ, ça a plutôt commencé via les financements de mosquées. Donc c'était des investissements de prestige un peu pour montrer que étant partis, ils avaient réussi. Puis c'est une demande aussi de la part de leur communauté de construire des mosquées dans leur village d'origine. Et puis petit à petit, il y a eu une réflexion sur, mais bon, au-delà de ces investissements d'intérêt communautaire très important, ils se sont posé des questions sur l'intérêt économique de ces investissements. Donc ils sont mis à construire des écoles, des centres de santé, des systèmes d'irrigation, des systèmes d'eau, d'adduction à l'eau, etc. Donc dans les régions dont ils sont originaires, effectivement, ils contribuent beaucoup à ça.
À Tilazage, en Albanie, il y a le même phénomène de virements, de l'importance de ces virements ?
Oh, bien sûr. L'Albanie, c'est le seul pays, je pense, hein, dans le monde où le tiers de la population a émigré.
A quitté le pays.
A quitté le pays. Exactement. Ça a commencé dans les années 91, 92. Tout de suite, après la chute du communisme. Et les Albanais ont profité de la position de géographie de l'Albanie. L'Albanie à côté de la Grèce, à côté de l'Italie. Et ils ont émigré en masse après la chute. Et donc, les revenus que l'Albanie reçoit par cette émigration sont les principales sources pour l'économie albanaise. On parle de 15% du PIB. Après la crise, après 2013, ça a baissé. On est à 10%. Mais le pic en 2007-2008 était à 17% du PIB. Donc
c'est beaucoup.
C'est beaucoup, c'est énorme.
Alors on va revenir en Afrique. On part maintenant au Sénégal, où les virements des émigrés jouent un rôle économique important. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Fabien Hoffner à Dakar, au Sénégal.
Un nom, une somme d'argent et un lieu. À Dakar comme ailleurs en Afrique, le rituel du transfert d'argent dans les agences est devenu une scène de la vie quotidienne. Les sommes envoyées augmentent d'année en année. En 2018, les transferts de la diaspora vers le Sénégal devraient franchir la barre des 1 000 milliards de francs CFA, soit plus d'1,5 milliard d'euros. c'est plus que l'aide publique au développement du pays. Au quartier Médina, l'étudiant Massila Kumbasek partage deux pièces avec cinq autres étudiants. Sa mère, qui vit à Kaolack, reçoit chaque mois 150 euros d'un de ses fils partis en Espagne. Une somme indispensable à la famille.
C'est cette somme-là qui permet, en majeure partie, ou bien même qui permet la survie de la famille. Quand ma mère reçoit l'argent, elle le dépense quotidiennement. Par exemple, le repas du midi ou bien du soir. Hormis ses envois par fin du mois, des fois aussi, il peut y arriver qu'il y ait dans la famille une fête. Il envoie plus que ça.
L'argent envoyé pourrait être encore plus important si les taxes sur les transferts étaient moins élevées. Selon un rapport publié en 2014 par une ONG britannique, l'Afrique perdrait chaque année plus d'un milliard d'euros en frais de transfert, qui sont les plus chers au monde. Le vice-président de Money Express Sénégal, Amidou Ndiaye, explique cela par le manque de concurrence et la présence d'intermédiaires.
Les réseaux les plus forts jusqu'à présent aujourd'hui sont Western Union et MoneyGram, qui monopolisent le transfert d'argent dans la zone. Il y a des émiettements. Donc il y a la banque qui gagne des commissions sur les opérations, il y a l'agent qui fait l'opération qui gagne des commissions et le réseau de transfert d'argent. Donc tout ça, c'est des centres de coûts qui font que le coût peut être élevé.
En 2011, le G20 s'était engagé à faire baisser le coût des transferts à 5% d'ici 2014. Selon l'initiative de transparence Send Money Africa, envoyer 140 euros de la France vers le Sénégal coûtait en février 2015 un peu moins de 6% du prix du transfert.
Claude Resnick, vous les voyez partir, vous, ces virements des gens qui sont installés à Montreuil vers leur pays d'origine ?
Oui, bien sûr. En ce qui concerne les Maliens, c'est un système très particulier. Les Maliens font très peu appel au système de transfert d'argent traditionnel et ont leur propre système de transfert, qui n'est pas mafieux, hein, je dirais tout à fait, et qui fonctionne très très bien. C'est un cas particulier. Mais dans les autres pays, que ce soit les Comoriens, que ce soit les ressortissants originaires d'Amérique latine, ça, les coûts de transfert d'argent sont absolument honteux, quoi. Alors, on a de l'argent qui part, malheureusement d'ailleurs, pas pour développer l'économie, mais pour faire vivre les familles, uniquement, ce qui est un problème sur lequel il faut se pencher, et qui est amputé de X%. Il y a des tarifs de transfert qui sont prohibitifs. C'est pourquoi nous, on a répondu positivement à la proposition de la Banque mondiale de faire une étude sur cette question à Montreuil, qui suit une étude qui a été faite à Turin.
Sandrine, mais c'est les sujets sur lesquels vous travaillez, vous ?
Oui, on a travaillé, on a justement participé à cette étude faite, commandée par la Banque mondiale, là, sur les pratiques de transfert des migrants, et on a étudié effectivement au sein de Montreuil plusieurs communautés. Donc, effectivement, les Maliens de Montreuil n'utilisent pas, ils n'ont pas attendu monnaie, banque, et enfin tous les systèmes
Western Union,
voilà, etc., pour transférer. Ils transféraient bien avant. Et donc du coup, ils ont développé des systèmes de main à main entre migrants qui fonctionnent très bien. D'autant plus, ils ont développé ces systèmes-là que dans les zones d'où ils viennent, jusqu'à maintenant, et c'est encore le cas maintenant, il n'y a pas de système bancaire, il n'y a pas de moyens non plus pour recevoir l'argent via des systèmes plus formels. Quoi. Donc dans notre étude, ils étaient plus de 50% à n'utiliser pas ces trucs. Donc eux ne souffrent pas de ces coûts. Mais c'est vrai que là, il y a une dernière étude de la banque qui est sortie. Effectivement, les coûts de transfert pour les Africains restent plus élevés que dans le reste du continent. Dans l'étude qu'on avait fait aussi, il y avait la communauté algérienne. Alors la communauté algérienne transfère beaucoup, mais pour des raisons de taux de change officiels qui ne sont pas du tout rentables, etc. Pour eux, ils n'utilisent pas du tout ces modes de transfert officiels.
Au niveau international, quelle est l'ampleur de ces virements ? Est-ce qu'on a une idée de la masse financière que ça génère ?
C'est énorme. C'est effectivement, on le dit souvent, supérieur pour certains pays à l'aide internationale ou aux investissements directs étrangers. Il y a effectivement eu une grosse accélération des flux. Alors, j'ai en milliards, je ne peux pas vous dire, c'est des trucs qui parfois enfin, pour moi, ne me disent pas grand-chose, mais c'est énorme. Mais par contre, je voudrais quand même souligner que peut-être qu'il y a un biais de mesure dans cette accélération des transferts qui est lié au fait que jusqu'aux années 90, on ne s'intéressait pas à ces flux. Donc, il y avait un biais. Je pense qu'avant aussi, il y avait beaucoup de transferts, mais qui étaient mal mesurés.
Altine Lazage, je vous vois opiner du chef sur l'importance de ces transferts.
Moi, j'ai quelques chiffres. En Albanie, en 2013, il y a eu, je crois, entre 500 millions et 600 millions d'euros qui sont rentrés dans le pays. L'argent de l'immigration albanaise, c'était, je crois, 600 millions d'euros. Et cet argent, en Albanie, il y a entre 91 et 2000, ce monde de transfert se faisait de main à main entre migrants. Et l'État albanais a compris l'importance de ce flux d'argent et a organisé un système bancaire qui est assez efficace d'ailleurs. Et donc maintenant, l'argent arrive en Albanie, c'est ce transfert de fonds, par ces banques. On peut trouver des banques françaises, Société Générale, Crédit Lyonnais. Donc tout est très très bien organisé, donc il n'y a pas de coût de transfert. Ce qu'a connu des pays comme Mali ou d'autres pays en Afrique.
Sandrine Meslessens.
Oui, je viens de retrouver quelques chiffres. Hein. Les derniers chiffres qui sont sortis par la Banque mondiale montrent qu'il y a 403 milliards de dollars en 2012, enfin 418 en 2013, vers les pays en développement, dont uniquement 32 sur l'Afrique subsaharienne, 113 en Asie du Sud et de l'Est et du Pacifique, 111 en Asie du Sud.
Claude Resnick, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est de l'argent qui échappe à la vie financière, économique, locale?
Non, nous, on n'a pas quantifié cet argent. D'abord, on n'a pas les moyens de le faire en tant que municipalité. Et en plus, on n'a pas vraiment le droit d'avoir des statistiques ethniques. Enfin, bon, là, on multiplie les difficultés en ce qui nous concerne, nous, municipalités. Ça échappe à l'économie locale. Oui, et alors? Voilà des hommes en général, des hommes qui peinent toute leur vie, qui sont là en France pendant des décennies à perdre leur vie, à la gagner. La moindre des choses, c'est que ça profite à leur famille et à leur pays.
Sandrine Meslessens.
Oui, dans l'étude qu'on a faite là à Montreuil, hein, on a interrogé donc un échantillon de migrants, dont maliens, et on leur demandait combien ils transféraient, on leur a demandé combien ils gagnaient eux ici, et en moyenne, ils transfèrent un mois de leur salaire qu'ils gagnent ici, là-bas. Mais ces transferts-là qu'on a estimés, c'est des transferts vers la famille. Je pense qu'ils transfèrent plus via les associations de migrants, via les investissements dont je parlais.
Adine Lazage, en Albanie, est-ce qu'il y a le même phénomène d'enrichissement, en quelque sorte, ou de survie de la population albanaise grâce à ces 500 ou 600 millions d'euros?
En Albanie, il ne s'agit pas de survivre. Les familles albanaises qui ont des enfants à l'étranger vivent grâce à l'argent envoyé par ces immigrants. Et jusqu'aux années 99, jusqu'aux années 2000-2001, cet argent était essentiellement utilisé donc par les familles pour vivre. Après, les immigrants qui gagnaient bien leur vie à l'étranger commencent à investir. Investir dans le domaine de santé, ouvrir des hôpitaux privés, ouvrir des écoles aussi, ouvrir des petits ateliers, surtout les secteurs de services, restaurants, hôtels, etc. Donc oui, ça a permis à l'essor de l'investissement en Albanie. Et en Albanie, l'argent envoyé de l'étranger par ces immigrants, c'est deux fois plus que l'aide au développement que l'Albanie reçoit de l'étranger. Ou quatre fois plus que l'investissement étranger par an en Albanie. Donc c'est très très important.
Claude Resnick, vous vouliez intervenir?
Oui, c'est un cas particulier. Là, j'ai l'impression que c'est un cas particulier parce que en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, cet argent sert à la survie des familles, à de l'équipement, comme on a pu le voir tout à l'heure, mais principalement à la survie des familles. Et malheureusement, cet argent n'arrive pas à créer des activités génératrices de revenus. C'est ce que nous, on a essayé de faire dans le cadre de notre coopération décentralisée avec le cercle de Lillimané. À une petite échelle, on aimerait que être appuyé par l'AFD, par les grandes structures d'aide au développement pour renforcer ce mouvement.
Alors, nous allons continuer ce débat dans la deuxième partie de cette émission. La première partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs, consacré aux migrations est terminée. Nous nous retrouvons dans quelques minutes après un flash d'actualité.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Lumière.
Bienvenue dans cette deuxième partie d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous parlons de l'impact économique des migrations avec trois invités. Sandrine Mesplé-Somps, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Claude Resnick, adjoint au maire de Montreuil, délégué à la coopération, aux solidarités internationales et aux populations migrantes. Et Altine Lazage, journaliste au service économique de RFI. Dans la première partie de cette émission, nous avons évoqué l'impact de cette migration sur les pays d'origine en général, les conséquences des virements et les investissements auxquels ils donnent lieu. Mais souvent, l'ailleurs vers lequel se dirigent ces migrants se refuse à eux, les frontières se ferment et ces migrants se retrouvent piégés dans un entre-deux qui peut s'éterniser. C'est le cas avec ces migrants africains que Leïla Berato, correspondante de RFI à Alger, a rencontré pour une émission Grand Reportage qui était diffusée lundi dernier sur les antennes de RFI et dont on écoute maintenant un extrait avant de retrouver nos invités.
Luc a 32 ans, il a un passeport malien et il est arrivé en Algérie il y a 9 ans.
J'ai vécu à Agra, dans Manassette, puis je suis allé à Oran. Oran était un petit peu ouvert parce que là-bas il y avait une diversité culturelle. J'ai trouvé plusieurs nationalités là-bas, avec qui on pouvait discuter, les Ivoiriens, les Congolais, les Tchadiens, les Maliens. C'était bien, mais le seul problème de l'Algérie, c'était qu'on ne pouvait pas trouver de boulot. Il n'y avait pas de boulot. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de boulot. Tout ce que tu peux faire, c'est dans le bâtiment, la maçonnerie. Bon, il faut avoir assez de force pour la maçonnerie, non ?
Sans permis de travail, impossible d'obtenir un emploi stable et les chantiers lui permettent à peine d'avoir de quoi vivre.
On ne peut pas faire de l'économie à l'Algérie. C'est difficile. Parce que tu vas gagner, je crois, 15 000 dinars par mois et tu vas payer ta location 10 000 dinars pour une maison qui ne... juste pour se couvrir. Parce que ça, c'est pas une maison, ça.
Ces deux hommes vivent dans la même maison. Au bout d'un chemin de terre, la carcasse en béton d'un immeuble qui n'a jamais été terminé abrite une trentaine de personnes, dont Rostan, qui vit là depuis 9 ans.
C'était un bunker, je ne sais pas si c'est pas un bunker ou un ghetto. C'était un immeuble inachevé. Les toilettes sont pas très praticables. Tu vois, c'est une toilette pour 9 chambres. 9 chambres, ça veut dire environ 30 personnes. Voilà, mais le bailleur, lui, c'est pas son problème. Il veut son loyer et tout. Si tu veux pas, tu vas ailleurs, tu te démettes, comme il dit.
La plupart des personnes qui sont installées le répètent. Si elles le pouvaient, elles partiraient. Mais comme l'affirme cet homme, très mince, qui porte de grandes lunettes noires, après tant d'années, il est difficile de rentrer chez soi.
Mais si je rentre comme ça, sans un CFA, c'est l'échec pour moi. Forcément, c'est l'échec. Donc je peux pas partir.
C'est un échec, Sandrine Mesplé-Somps, de rentrer au pays sans argent, en ayant renoncé à parvenir en Europe.
Oui, parce que souvent c'est leur voyage est financé par leur famille ou par des migrants qui ont réussi à passer, et donc c'est difficile, point de vue honneur personnel, etc., et dignité, de revenir et de montrer qu'on est en échec, oui, parce qu'il y a une espèce de dette à rembourser du fait qu'on l'a choisi parmi la famille pour partir. C'est vrai que du fait des difficultés de plus en plus grandes des migrants de venir jusqu'en Europe, au-delà de l'actualité récente, hein, ça date depuis longtemps, c'est vrai qu'au Maghreb, c'est construit des vrais, alors que jusqu'à longtemps, c'était que juste des zones de passage, c'est construit dorénavant des quartiers de migrants. Les migrants d'Afrique sont aussi installés dorénavant au Maghreb.
Est-ce que cette fermeture des frontières européennes a des conséquences économiques pour l'Europe ?
Peut-être qu'à long terme, oui, on a, c'est une question difficile, hein, mais il me semble qu'étant donné les projections démographiques des pays européens qui vieillissent, on a peut-être tout intérêt à réfléchir un peu à accueillir des migrants, oui, on aura besoin de main-d'œuvre étrangère, oui.
C'est quelque chose que vous sentez à Montreuil, ça, ce besoin d'une immigration
Oui. D'une immigration, en plus une immigration renouvelée. Les migrants qui sont ici vieillissent. Il faudrait donc pouvoir faire venir des jeunes qui ne peuvent pas venir en ce moment parce que c'est impossible d'avoir des visas, parce que ensuite, quand on n'a pas les papiers, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de logement. Enfin, il y a tout cet enchaînement de la misère. On parle de ces zones de stockage, hein, on va dire, des migrants ouest-africains dans le Maghreb. On a en petit, à peu près la même chose chez nous. On a d'immenses squats. On a une suroccupation dans les foyers de migrants sans papiers qui ont du mal à survivre. Alors eux, ils n'envoient pas d'argent au pays, hein, ils ont déjà du mal à survivre. Après, c'est un problème qui retombe sur le dos des collectivités locales. Hein, quand vous avez un squat de 300 personnes et que une décision qui vient soit de la demande du propriétaire ou de la préfecture, ou etc., met tout ce monde-là à la rue, qui doit s'en occuper à ce moment-là, c'est les élus locaux. Il n'y a personne d'autre pour assurer. C'est un vrai problème, ça pose des problèmes de santé publique, des problèmes économiques. Bien sûr qu'on aurait besoin d'ouvrir les frontières. Et moi, je repose aujourd'hui la question des visas à entrée multiples. Quel est le problème avec les migrants ? C'est pas la difficulté de rentrer. Il y en a plein, on le voit bien, il y en a plein qui arrivent à rentrer. Ils ne peuvent pas ressortir.
Alors, il y en a quand même qui ressortent et qui sont ressortis à cause de la crise économique européenne des dernières années. Cette crise a eu un impact sur les migrants, en particulier les immigrés équatoriens qui s'étaient installés en Espagne et qui en sont repartis pour se réinstaller dans leur pays d'origine. C'est un reportage éco d'ici éco d'ailleurs d'Éric Sanson à Quito.
Si la crise est sévère pour les Espagnols, elle est souvent pire pour les immigrés, surtout les sans-papiers. Certains sont revenus à temps. Estela Chimborazo et son mari, par exemple, qui avaient pourtant obtenu leurs papiers et s'étaient bien adaptés à Barcelone.
On a décidé de rentrer avec mon mari quand on a vu monter le prix des appartements, la bulle immobilière, comme ils disent. On avait acheté le nôtre et on se disait, ça va pas durer. On a vu venir cette crise d'aujourd'hui. On a décidé alors de rentrer avant qu'il ne soit trop tard. On a revendu notre appartement et on a pris le premier avion. C'était il y a 5 ou 6 ans.
Avec leurs économies, Estela et sa famille ont acheté un restaurant en Équateur. Le retour s'est bien passé. Ce n'est pas le cas de Carlos Jordan. Carlos est arrivé à Madrid alors que la situation était déjà difficile. Sans papier, il a connu de longues périodes de chômage. Il s'est accroché le plus longtemps possible. Mais aujourd'hui, de retour à Quito, il n'est plus le même.
Tu n'as pas envie de t'amuser, tu te sens mal, tu as la pression, tu penses tout le temps à tes dettes, à comment tu vas t'en sortir. Avant j'étais une personne joyeuse, je me marrais tout le temps. J'étais un peu le clown de la famille, mais mon expérience en Espagne m'a changé. À mon retour, j'étais une personne triste et soumise.
Rien de très surprenant pour le psychologue Jaime Costales.
Le retour forcé est un autre déchirement culturel. Il y a d'abord le choc de la migration, s'habituer à un autre pays, à d'autres coutumes, au racisme, à l'éloignement avec la famille. Mais le retour dans son pays d'origine après des années d'absence et en situation d'échec, c'est tout aussi difficile.
Lorena Escudero a été longtemps ministre des migrants avant que son poste ne soit intégré au sein du ministère des Affaires étrangères. Pour elle, gérer le retour des migrants doit être une politique globale.
Le plan Bienvenue chez vous est financé par pratiquement tous les ministères. Celui du logement, par exemple, offre des crédits pour que les migrants de retour puissent acheter leur logement. Le ministère de la Santé organise des concours pour que les docteurs puissent revenir avec l'assurance d'avoir un travail. Et l'agriculture réservera 3000 hectares sur la côte pour des projets agricoles de migrants et des projets industriels et commerciaux seront financés par l'État.
Même si chaque histoire de migrant est personnelle et qu'il est toujours difficile de généraliser, une chose est sûre, revenir est parfois plus compliqué que partir. Ne pas s'y préparer peut être aussi traumatisant qu'un exil forcé.
Sandrine Mespé-Son, est-ce que vous avez l'impression que cette immigration de retour en Amérique latine, en Équateur, est très différente de ce que vous connaissez en Afrique? Est-ce qu'il y a ce genre de phénomène en Afrique? Est-ce que la crise peut forcer les migrants à retourner au pays?
Oui, il y a des gros mouvements de retour qui sont pas forcément liés à des crises spécifiques. Enfin, on est effectivement, le reportage fait état effectivement de la crise bien spécifique de l'Espagne et de l'Europe, mais de tout temps, enfin en Afrique, les vieux migrants rentrent, hein, et il y a beaucoup de migrants de retour. Alors effectivement, il y a des flux conjoncturels du fait des crises. Je parlais de la crise libyenne il y a quelques années, a fait un retour massif au Mali. La crise ivoirienne aussi a fait des retours, pas mal de gens du Sahel dans les pays sahéliens comme le Burkina ou le Mali. Donc on assiste aussi à ce genre de phénomène de retour, et comme dans le reportage, il y a deux types de retours, des plus ou moins réussis comme on a vu. Effectivement, le retour est parfois pas facile pour des raisons psychologiques, comme il était évoqué dans le reportage, d'échecs et de redevabilité par rapport aux gens qui ont eu confiance en vous quand vous êtes parti, mais aussi d'absence peut-être de d'accès à l'information pour retrouver des activités, de rupture dans les réseaux sociaux existants, qui fait que qu'il est difficile aux migrants de retour parfois de retrouver du boulot à la hauteur de parfois des capacités de l'éducation qu'ils ont pu acquérir à l'étranger.
Claude Resnick, à Montreuil, vous constatez des fluctuations de population comme ça en fonction de la situation économique française ou locale?
Pas vraiment. Honnêtement, on constate, non, pas vraiment, au contraire. On constate une arrivée toujours plus importante de migrants désespérés, sans papier, sans travail, sans logement, sans... Notamment la crise libyenne a provoqué quelques catastrophes du genre, avec des jeunes qui sont arrivés d'origine malienne, mais arabophones, c'est-à-dire qui avaient passé leur jeunesse en Libye, complètement, excusez-moi le mot, mais largués.
C'est-à-dire ?
Déjà, le fait de ne parler qu'arabe et pas français, même quand on est malien, ça peut poser des problèmes.
Surtout quand on est malien, vous voulez dire ?
Enfin, ça peut poser des problèmes, même à Montreuil. Voilà. En plus, en général, n'étant pas originaire des régions importantes d'immigration, parce que c'est l'ouest du pays, les Soninkés ont une tradition de migration plus importante que le restant de la population malienne. Donc, des problèmes absolument insolubles, quoi.
Altine Lazage, ça vous parle, ce reportage équatorien?
Oui, tout à fait. Entre 2013 et 2014, en Albanie, il y a eu environ 130 000 Albanais qui sont rentrés dans le pays, essentiellement de la Grèce, 90%. Et le problème que la presse locale évoquait, c'était le choc culturel, parce que ces immigrants qui ont immigré en Grèce, en Italie, dans les années 90, ils sont rentrés après en Albanie avec leur famille, parce qu'ils ont créé des familles dans les pays d'accueil. Et donc, c'était un choc culturel pour les enfants, parce que les enfants, ils parlaient à peine albanais. Comme ils étaient scolarisés en Grèce ou en Italie, ils ne pouvaient pas parler albanais. Donc, il y a eu des problèmes de scolarisation, il y a eu des problèmes d'aide. L'État albanais était un petit peu... mal géré, disons, la situation. Et ces familles, après, se sont débrouillées comme elles pouvaient. Ils ont acheté des restaurants, ils ont construit des restaurants, des hôtels. Donc, ils ont travaillé un petit peu, ou ils travaillent actuellement dans le secteur des services, plutôt.
Alors, c'était Éco d'ici, Éco d'ailleurs, sur RFI. Nous parlons de l'impact économique des migrations avec trois invités. Sandrine Mesplé-Somps, chargée de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Claude Resnick, maire adjoint de Montreuil, délégué à la coopération, aux solidarités internationales et aux populations migrantes. Et Altine Lazage, journaliste à RFI. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé dans cette émission des migrations du sud vers le nord, des pays dits pauvres vers les pays plus développés. Mais il y a aussi des migrations régionales. Exemple avec l'Afrique du Sud, la nation arc-en-ciel, malgré les violences xénophobes du mois d'avril dernier, la deuxième puissance économique d'Afrique est le pays qui attire le plus de migrants de tout le continent. Officiellement, ils sont environ 4 millions, Zimbabwéens, Mozambicains, mais aussi Congolais, Nigérians et Somaliens, et présents dans tous les secteurs d'activité, des mines à l'agriculture. En passant par le petit commerce, c'est un reportage Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé Alexandra Branjon à Johannesburg.
Johannesburg, un vrai melting pot. Dans les rues, on trouve des vendeurs zimbabwéens ou mozambicains, des gardiens de parking congolais, des magasins tenus par des Nigérians, des Somaliens et des Éthiopiens. 10% des habitants de la province du Gauteng ne sont pas nés en Afrique du Sud. Il faut dire que la province qui comprend Johannesburg et Pretoria est la plus riche du pays. C'est là qu'on vient chercher du travail. La plus importante communauté étrangère est zimbabwéenne. Agatha est femme de ménage en Afrique du Sud depuis 14 ans.
L'économie n'était pas bonne. Je devais aider mon mari car il n'arrivait pas à gagner assez d'argent pour élever les enfants. Venir ici n'était pas difficile parce que j'avais un passeport zimbabwéen. Les autorités sud-africaines m'ont donné un visa de touriste de 30 jours et ensuite je suis restée ici. Car même avec mon petit salaire, je peux mettre de côté pour mes enfants.
enfants.
Depuis 2007, l'immigration en Afrique du Sud a fortement augmenté, une immigration principalement économique, même si le pays continue d'accueillir de nombreux réfugiés de RDC, Somalie et Éthiopie. Cependant, impossible de dire combien d'étrangers vivent dans le pays. Les dernières statistiques de 2011 font état de 2,5 millions d'étrangers, plus environ 2 millions en situation irrégulière. Pour Sally Peberdi, chargée des questions de migration auprès de la province, la population étrangère est extrêmement variée.
On oublie qu'il y a beaucoup d'Africains qualifiés comme les docteurs et les infirmières qui travaillent dans des hôpitaux situés dans d'anciens bantoustans. Cela date de l'apartheid. Le gouvernement essayait d'ouvrir des hôpitaux et des écoles dans ces territoires réservés aux Noirs et donc avait besoin d'Africains noirs et ont beaucoup recruté dans des pays comme le Ghana ou le Nigeria.
Pour Zahira Ginard de l'université de Witwatersrand, l'Afrique du Sud, qui manque justement d'une main-d'œuvre qualifiée, a beaucoup à gagner de ces travailleurs africains.
11% des étrangers sont les employeurs, par rapport à une moyenne nationale de 6%. Cela sous-entend que les étrangers sont plus à même de créer des emplois. Ils sont dans le secteur de l'artisanat, des services, comme par exemple préparateur de téléphone ou coiffeur. Et ça va même plus loin. Une étude montre que les migrants sont plus à même d'être propriétaires de leur commerce, auquel cas ils créent des emplois et embauchent des Sud-Africains. En moyenne, chaque migrant crée 2 à 3 emplois.
Selon les chercheurs, les étrangers contribuent de façon significative à l'économie du pays. Ils travaillent, se logent, envoient leurs enfants à l'école ou tout simplement payent leurs impôts.
Les immigrés, c'est donc une richesse pour l'Afrique du Sud. Est-ce qu'on peut généraliser cette conclusion à tous les pays qui accueillent des migrants ?
Moi, j'ai l'impression que les migrants contribuent à la richesse de l'Europe, de manière générale. On dit toujours que l'Europe subit la migration. On parle à l'heure actuelle de quotas sur quelques centaines de Syriens, en oubliant qu'il y a des milliers de Syriens qui ont été obligés d'émigrer en Jordanie, au Liban. Alors là, je pense que, oui, c'est un vrai problème pour ces pays-là. L'immigration intérieure aussi en Afrique est beaucoup plus importante en Afrique de l'Ouest. Hein. Je sais que beaucoup de Maliens sont en Côte d'Ivoire, sont jusqu'au Congo, etc. est beaucoup plus importante que le nombre de migrants maliens ou ouest-africains en Europe. Alors, il y a cet aspect de, entre guillemets, immigration choisie. Ceux qui viennent ici, qui vont être de bons travailleurs, rentables, enrichir le pays, enrichir l'économie. Oui, certes, en ce qui concerne l'Europe, oui, c'est un bienfait.
Et si on en reste à Montreuil, est-ce que ce sont des contributeurs importants à l'activité économique ?
À l'activité économique, oui. Pas forcément sur Montreuil. C'est pas là où il y a le plus d'activité économique. On sait que c'est des banlieues proches de Paris, des banlieues qui sont désindustrialisées. Aujourd'hui, il reste quelques services. Le premier employeur est, je crois, France Agrimaire, et le second, la BNP. Je pense pas qu'il y ait une proportion de migrants d'Afrique de l'Ouest extrêmement importante dans ces deux organismes.
Ils contribuent à la vie commerçante, bien évidemment. À l'activité culturelle, ils payent des impôts locaux.
Bien évidemment.
C'est important.
C'est une part importante de la population, bien sûr.
Alors, ces derniers jours, on a pu lire dans la presse française des tribunes de dirigeants du MEDEF, je pense à son président Pierre Gattaz, appelant à aider les pays africains à se développer pour réduire l'émigration, leurs travailleurs. C'est quelque chose d'efficace, vous pensez, Sandrine Mesplesson, ces appels, cette aide au développement, est-ce qu'elle est efficace pour enrayer l'émigration ?
Oui, évidemment, il faut que les pays se développent pour effectivement, la migration provient à la base de problèmes de pauvreté. Donc on ne peut que souhaiter que les pays se développent. Malgré tout ce qu'on a pu dire, effectivement, il y a peut-être des problèmes de détournement d'argent, de corruption, etc. Mais bon, normalement, s'il n'y avait pas d'aide, je pense que les pays ne seraient pas là où ils sont. Et malgré tout, ils sont dans des situations assez basses, quoi. Donc non, l'aide est efficace.
On parle souvent de co-développement. C'est quoi ?
Alors, le co-développement, c'est... Il me semble pour moi, c'est deux choses, mais il me semble que le plus important, c'est justement lié aux associations de migrants qui ont été créées ici. Et on a eu l'idée de mettre en liaison les associations de migrants qui vivent dans des localités bien précises en France avec les municipalités pour favoriser l'aide internationale via les collectivités locales, les collectivités locales françaises. Et ça, je pense que ça marche beaucoup, ça a bien marché.
Claude Resnick, vous en faites du co-développement à Montreuil ?
Nous, on fait de la coopération décentralisée. C'est une autre notion. Le co-développement est plus lié à ce qu'on a évoqué au tout début de l'émission, à l'envoi de l'argent par les migrants pour des opérations qui ont très bien été décrites et qui maintenant vont jusqu'à des opérations, un intérêt pour de lutte contre la désertification, sur le dérèglement climatique. Il y a effectivement des associations de migrants qui sont en train de lancer des opérations de replantation d'arbres à l'heure actuelle, par exemple. Des tas de projets comme ça absolument passionnants.
Et la coopération décentralisée que vous évoquez, alors ?
Alors, la coopération décentralisée, c'est la capacité que les collectivités locales, les villes, les départements, les régions, ont d'avoir des opérations de coopération avec leurs alter-ego dans les pays du Sud. Montreuil le fait avec un département du Mali, dans la région de Kaï, le cercle de Yélimané.
Et vous y développez quoi ?
Cette coopération a plusieurs volets. Ça peut être l'appui au mouvement des femmes. Ça peut être l'aide, la consolidation, on va dire, des collectivités locales, le fait qu'elles puissent fonctionner, se développer, etc. Ça peut être des questions qui concernent l'agriculture, l'accès à l'eau, l'accès à la santé. Je pense que tous les domaines sont concernés. Oui, l'aide à la création de petites entreprises ça c'est vraiment très très important. J'en ai parlé tout à l'heure et ça permet soit à des migrants, soit à la famille de migrants sur place de développer des activités génératrices de revenus et on espère d'éviter aux jeunes d'avoir à partir et de finir au fond de la Méditerranée.
Alors, à rebours de tout ça, je voudrais vous faire entendre un court extrait d'un webdoc de RFI intitulé « La face sombre de la tomate » et qui explique comment la culture de la tomate au Ghana a été réduite à néant. Écoutez les explications de Philippe Ayamba, directeur du Community Self-Reliance Center, une association proche des producteurs de tomates du Ghana.
It was really a gold mine.
C'était une vraie mine d'or. Quand j'étais plus jeune, mon père, ses frères et les autres paysans avaient créé une communauté autour d'un petit réseau d'irrigation. Ils produisaient une variété de tomates qui s'appelait Roma, et c'était très rentable. Mais maintenant, les usines sont fermées. C'est à cause de l'importation de tomates en boîte. Elles sont beaucoup moins chères que les tomates produites ici. Les paysans ont été abandonnés. Ils doivent faire face à la concurrence des grands importateurs qui font venir d'Europe de la tomate en boîte à prix cassé. Les autorités ont laissé entrer un flux incontrôlé de tomates européennes. Toutes ces importations sont en train de tuer l'industrie de la tomate au Ghana.
Alors, c'est un webdoc réalisé par Mathilde Auvillain et Stefano Liberti qui ont donc recueilli ces propos. Est-ce que on n'a pas un peu l'impression que l'Europe joue double jeu, Claude Resnick ?
Bien sûr, les accords économiques qui ont été mis en place encore récemment permettent ce genre d'aberration des importations, notamment sur la question des droits de douane. Qui font perdre des revenus certains aux pays du Sud, Afrique de l'Ouest en particulier, et qui peuvent détruire complètement des pans de l'économie, puisque un exportateur bien armé européen arrive à importer de la tomate moins chère que celle qui est produite sur place.
Ce que ce webdoc explique aussi, c'est que les producteurs de tomates ghanéens, qui donc ont été privés de débouchés locaux, et donc de travail, se sont souvent retrouvés à produire des tomates en Italie comme main-d'œuvre bon marché. Et Sandrine Mesplé-Sombre, est-ce que c'est un phénomène que vous avez rencontré dans vos études sur le terrain au Mali, au Sénégal ?
Non, pas précisément, mais effectivement, il y a un problème de cohérence des politiques, et j'abonde dans le sens de Klaus Wernick, il y a un problème de cohérence, notamment des politiques commerciales de libéralisation. Une des raisons, par exemple, de l'augmentation des départs de bateaux, par exemple, de Saint-Louis du Sénégal, hein, c'était que des pêcheurs se sont rendus compte que c'était plus rentable d'envoyer des migrants que de pêcher, quoi. Donc, il y a vraiment un problème de faire en sorte que les activités économiques soient pérennes et soient rentables dans les pays, oui.
Attil Lazage, est-ce que il y a ce problème en Albanie de concurrence entre les marchés, de désavantages compétitifs?
Surtout avec la Grèce, oui. Les tomates, les pommes de terre, toutes les fruits et légumes, hein, 80% des fruits et légumes qui sont commercés en Albanie viennent de l'étranger, surtout de la Grèce et une petite partie aussi de l'Italie. Et l'Albanie ne produit très très peu. En tout cas, le secteur de l'agriculture en Albanie produit très très peu. Après, les raisons, je ne sais pas si c'est lié à cette manque de cohérence des politiques, etc., mais
Est-ce que ça contribue au départ d'une main-d'œuvre albanaise vers d'autres pays d'immigration?
Oui, bien sûr, c'est sûr. Par exemple, oui, si on prend l'exemple de la Grèce, sur 3 millions d'Albanais, il y a 600 000 en Grèce, vivent en Grèce, 600 000.
C'est 20% de la population albanaise.
C'est 20% de la population albanaise.
Eh bien, c'est la fin de cet écho d'ici, écho d'ailleurs consacré à l'impact économique des migrations. Émission réalisée, mise en onde par Guillaume Munier. Merci à vous trois, Claude Resnick, Sandrine Mesplé-Somps et Altine Lazage d'y avoir participé. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre écho d'ici, écho d'ailleurs.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.